Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Accusé de participation criminelle à l'enlèvement de l'artiste Blackman Baoussi à Goma, injure envers les religieux catholiques et autres chefs d'accusation, le célèbre pasteur du Nord Kivu, Jules Moulindo de l'église Cité des Refuges, coupé depuis hier dans la geôle de la police des renseignements à Goma. Dénonciation et alerte de l'ONG Greenpeace sur une menace qui pèse sur les 145 000 carrés de tourbières découvertes dans le bassin du Congo. Est mise en cause le ministre de l'Environnement qui octroie deux concessions avec tourbières en province de Choapa et Équateur à deux compagnies chinoises d'exploitation forestière. Le moratoire en la matière est donc foulé au pied, crie l'ONG. En seconde partie de ce journal, Rose Twendeyane, notre invité, nous parlera des avantages liés à l'avènement d'une justice sociale et aussi des voies et moyens pour l'atteindre. Vous informer, c'est notre devoir. Alors, excellente condition d'écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Ce journal part du Nord Kivu où le pasteur Jules Moulindo, surnommé prophète des dieux à Goma, est depuis hier sous les verrous au cachot de la police des renseignements P2. Ce prévenu est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation dont la participation criminelle à l'enlèvement de l'artiste Blackman Baoussi à Goma, deux jours avant l'ouverture du festival à Mani le 9 février dernier. Autre précision sur cette arrestation avec Gabriel Ouaménia.
Jules Moulindo, dont la célébrité mais aussi celle de son église sont dits aux affronts ainsi qu'aux critiques acerbes contre d'autres églises, est actuellement dans les collimateurs de la justice. Selon les sources de la police, cet homme qu'on dit jouir d'une protection dans les sérails du pouvoir a été cueilli de sa maison après que le parquet a requis un magistrat pour le conduire au cachot. Ce pasteur de la cité des réfuges, comme il a surnommé son église, serait poursuivi pour diverses infractions, notamment comme présumé auteur de l'enlèvement de l'artiste Blackman Baoussi il y a deux semaines à Goma, des diffamations, injures envers les religieux catholiques, des trafics d'influence et d'intimidation. Mais selon les sources proches de son église, Jules Moulindo serait aussi poursuivi pour détournement d'une importante somme d'argent récoltée auprès de ses fidèles au titre d'une mutuelle de l'église. Rappelons qu'il y a quelques années, l'église de Jules Moulindo a été frappée d'interdiction de fonctionner à Goma avant d'être rouverte grâce aux documents officiels délivrés par la présidence de la République selon nos sources. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Kapi.
Nous restons au Nord Kivu avec cette tension tôt ce matin entre les communautés ethniques locales à Mutanda dans la chefferie de Bwito. C'est à plus de 150 km au nord-ouest de Goma, en territoire de Rutshuru. C'est suite à l'assassinat d'un homme vers 7 heures par des présumés combattants Hutu Nyatura. Plusieurs maisons appartenant aux familles Hutu ont été incendiées par des jeunes en colère. Récit des faits avec Gisèle Cage.
Tôt ce matin, un habitant de Mutanda qui se rendait au champ a été tué de 2 balles dans la tête par 4 hommes armés, soupçonnés d'être des Nyatura, indiquent nos sources. Cela s'est passé à Mutoa, à 3 kilomètres au nord de Mutanda. Une fois la nouvelle répandue dans le village, une vive tension s'en est suivie. Des jeunes en colère se seraient attaqués aux familles Hutu qu'ils accusent de collaborer avec ces combattants. Selon la société civile locale, l'armée a dû intervenir en tirant des coups de feu en l'air pour protéger ces familles. Pendant que celles-ci échappaient à la vindicte populaire, certains manifestants étaient occupés à incendier leurs maisons, indique la même source. Près d'une centaine de maisons vont ainsi partir en fumée, un jeune Hutu blessé à la machette. Ainsi, les membres de la communauté Hutu aurait vidé Mutanda et se serait dirigé vers Nyanzale, à environ 10 km de leur localité. Rappelons que les tensions ethniques dans la chefferie de Bwito sont devenues récurrentes. Avec cet incident, les efforts de pacification entrepris par le gouvernement et ses partenaires, dont la MONUSCO, se trouvent anéantis, déplore la société civile locale. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi.
À Nitori, cette fois-ci, le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo craint pour sa vie et celle de sa famille. En effet, son nom est ceux de plusieurs autres personnalités de l'Ituri circulent dans les réseaux sociaux comme exécutant des exactions qui se commettent dans le territoire des Djougou depuis un peu plus de 3 semaines. Ces messages appellent à l'assassinat de ces personnalités et de leurs descendants partout dans le monde. Ces personnalités qui se sentent menacées en appellent à la protection des autorités, comme le dit José Deschartemenga.
Ce message signé par un certain Kaysar Lonzama circule sur la toile depuis hier. Outre le président de la FEC, il cite 2 députés nationaux, 2 enseignants d'université et 2 commerçants. Tous sont originaires de la collectivité des Baïmanor qui enregistre le plus grand nombre des victimes jusque-là. L'auteur des menaces les accuse d'avoir perçu l'argent du pouvoir pour entretenir les conflits armés dans le territoire de Djougou. Aussi appelle-t-il à leur bannissement de leur ethnie d'origine. Ce matin, le président de la FEC alerte l'opinion à travers la presse. Je voudrais prendre à témoin l'opinion publique et surtout les autorités autorités de l'État parce que nous sommes dans l'insécurité totale, lâche-t-il. Constant Boubulenga prend la menace au sérieux.
Vous pouvez lire dans les différents téléphones d'autrui, on nous menace partout là où on va nous trouver, à Kinshasa, à Kampala, qu'on outille avec armes blanches ou bien armes à feu. Quand il y a des choses pareilles, moi je suis un homme, je peux avoir peur, mais ma conscience ne me reproche rien, comme je viens de vous le dire, mais je voulais que je puisse dénoncer. Je me mets à disposition de l'État pour me sécuriser et ma famille.
Le président de la FEC confirme avoir saisi officiellement les services de sécurité à ce sujet. Radio Capi n'a pas encore enregistré la réaction des autorités civiles, militaires ou sécuritaires sur cet autre épisode du drame de Djougou. Bounia, José Deschartes Menga, Radio Capi.
Parlons aussi de ces conditions carcérales difficiles dans la prison centrale de Kambwayi à Béniville. Aujourd'hui, la population carcérale a quintuplé par rapport à sa capacité initiale. Conséquence, des centaines de prisonniers passent la nuit à même le sol alors que d'autres commencent à mourir suite à la malnutrition. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Le dernier cas de décès dans la prison centrale de Kangwayi de Beni a été signalé ce lundi matin. Selon les sources pénitentiaires, cela porte à 6 le nombre de détenus décédés depuis novembre dernier dans cette prison suite à la malnutrition sévère, faute de nourriture depuis quelques mois. D'après la même source, avec une capacité d'accueil de 150 personnes, la prison centrale de Kangwayi, qui dispose de 4 cellules, a actuellement une population carcérale estimée à 750 personnes. Parmi ces détenus, au moins 150 souffrent de malnutrition sévère, faute de nourriture et d'eau dans cette maison carcérale. Selon les sources judiciaires, la plupart des détenus de la prison de Kangwayi sont poursuivis pour les infractions de participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes, viol sur mineur, association de malfaiteurs et viol qualifié. Contacté, le magistrat Damien Kambalé, procureur près le DGI de Beni, s'est réservé de tout commentaire sur la situation qui prévaut dans cette maison carcérale. Beni, Martial Papimukeba, Radio Capi.
Environnement, il en est aussi question dans ce journal. L'ONG Greenpeace dénonce l'arrêté du ministre de l'Environnement attribuant 3 concessions à 2 compagnies d'exploitation forestière chinoises. C'était en violation de la législation en vigueur concernant notamment le moratoire en la matière. Selon cette ONG, l'expansion de l'exploitation forestière dans 2 de ces concessions constitue une grande menace sur les 145 000 km² des tourbières récemment découvertes et aurait des conséquences néfastes sur le changement climatique. Cette dénonciation a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Kinshasa. Greenpeace demande au gouvernement d'annuler cet arrêté et de sanctionner les auteurs. Madame Irène Wabibou-Betoko, responsable de la campagne forêt de Greenpeace, le dit au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Environ 650 000 hectares de concessions forestières illégales ont été réattribués par Monsieur le ministre Amiamba Tobé, comme l'atteste son arrêté numéro 09 pris ce 1er février 2018 que nous avons en notre possession. Les 3 concessions réhabilitées appartiennent aux compagnies d'exploitation forestière chinoise, la Forestière du Développement du Congo, FODECO en sigle, et la société La Millénaire Forestière, SOMIFOR, respectivement dans la province de l'Équateur, de la Chuapa et de la Chopo. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces 3 concessions avaient été annulées en août 2016 par l'un de ses prédécesseurs, M. Robert Bopolo, après une forte campagne de Greenpeace à ce sujet. Cet acte émanant du plus haut responsable du ministère de l'Environnement n'a fait aucun doute quant au mépris par le gouvernement congolais de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Nous demandons au gouvernement congolais de pouvoir révoquer de nouveau ses concessions et cette fois-ci en sanctionnant les personnes responsables de cette situation.
Contacté, le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Environnement affirme que les concessions réattribuées sont d'exploitation du bois, donc non concernées par le moratoire. Au Kasaï central, les accidents de circulation ont fait cette année 48 morts, 123 blessés, dont 16 ont gardé des handicaps. Ces statistiques ont été fournies ce lundi à Radio Capi par le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière. André Kabasele Ndalandimoué parle des causes de ces accidents. Il donne également des conseils pour réduire leur fréquence. Il est au micro de André Kambala Moujanaï. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup de cas d'accidents de circulation routière, en premier lieu, il faut que notre population entre en connaissance des panneaux de signalisation. Que nous, ici, la Saint-Pierre-Cassel centrale, nous n'en avons pas, et voire même nos routes ne parlent pas. Parce que la route a une façon de parler. La route a son langage. Le langage de la route est lié aux panneaux de signalisation. Et chaque jour, nous, nous sommes là pour éduquer notre population à connaître qu'est-ce que les panneaux de signalisation, qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser la route et comment traverser la route et comment rouler avec l'engin à moteur, quel que soit sa moteur. S'il n'y a pas les panneaux de signalisation, même si nous allons passer à la radio comme ça, en train d'éduquer, mais les piétons, la population ne saura pas que ça, c'est un panneau de signalisation lumineux.
À part les panneaux de signalisation, il y a encore quoi?
Nous avons les nouveaux codes de la route. C'est un support proposé surtout aux conducteurs. Et nous, à la Saint-Père, nous avons déjà conçu un nouveau code de la route réservé, préparé et traité pour les écoliers, afin qu'à partir des bas âges, que nos jeunes gens sachent très bien que voilà, pour traverser la route, il faut ça. Pour rouler avec un engin à moteur, voilà les conditions qu'il faut.
Par ailleurs, le directeur provincial de la Saint-Père fustige le manque des moyens de location par son office, ce qui, selon lui, ne permet pas d'atteindre tous les coins de la province. Politique à présent, le centre salue la déclaration de la SENCO faite hier lundi à Kinshasa à l'issue de son assemblée plénière extraordinaire. Pour cette plateforme politique, les princes de l'Église catholique ont été centristes dans leur message, déplorant par contre la montée de l'intolérance et de la violence qui aggrave la crise dans laquelle le pays est déjà plongé. Le centre exhorte les politiciens tant de l'opposition que de la majorité à faire taire les hésitations et atermoiements afin d'aider la nation à passer le cap des élections. Suivez plutôt les coordonnateurs du centre, Germain Camp. Bingham, micro d'innocent en lingua.
Le centre apprécie, à juste titre, le caractère centriste du communiqué de la SENCO du 19 février 2018 et profite de cette occasion pour saluer la sagesse et l'esprit conciliateur des évêques, en dépit de toute considération. Le centre constate la poursuite des activités préparatoires des élections par la CENI, réaffirmant son attachement à la paix et à la recherche du consensus permanent, le centre demande au gouvernement de respecter le cahier de charges de la CENI et d'assurer sans désemparer la mobilisation des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à l'aboutissement heureux du dit processus. Demande l'implication personnelle du chef de l'État pour que la dynamique politique et électorale ainsi enclenchée se poursuive.
Justice pour terminer cette page réservée aux nouvelles nationales. Ouverture ce mardi à Kinshasa d'un séminaire de formation à l'intention des avocats des barreaux de Kinshasa et d'autres barreaux du pays présents à Kinshasa. La formation porte sur les notions de base. C'est la présente représentation de la Cour pénale internationale CPI qui l'organise en partenariat avec le Carrefour des avocats congolais. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration des 20 ans de l'adoption du statut de Rome. Suivez les explications de Patrick Tchiboui, assistant chargé de la sensibilisation à la représentation de la CPI-RDC, au micro de Jocelyne Moussa Oponde.
Le 17 juillet 2018, le statut de Rome va totaliser 20 ans. Et donc, dans le cadre de cette célébration, donc, plusieurs activités vont être organisées ici en RDC, sur le plan international aussi, au siège, mais également par plusieurs institutions et différentes organisations qui soutiennent la justice pénale internationale. Et donc, pour la RDC, nous commençons le lancement des activités des 20 ans avec donc ce séminaire. On a voulu donc faire une focalisation sur cet instrument fondateur que le statut de Rome, parce qu'à vrai dire, tous les textes juridiques de la Cour pénale internationale trouvent leur essence dans le statut de Rome, qui est le traité qui a créé la Cour pénale internationale. Donc il était pour nous important de pouvoir rencontrer les avocats pour leur expliquer justement comment fonctionne le système de la Cour en se basant sur ce traité fondateur qu'est le statut de Rome.
Actualité Afrique Monde.
Et nous partons du Togo. Le dialogue ouvert hier lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition après 6 mois de crise politique a connu des premières avancées avec la libération de 45 personnes arrêtées lors des marches contre le pouvoir, l'une des conditions de l'opposition. Le premier jour des débats qui s'est déroulé à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise, a été largement dominé par des mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Le président togolais a décidé d'accorder une grâce présidentielle de 45 des 92 personnes détenues dans les prisons du pays à la suite de leur participation aux manifestations. Au Niger, la justice a ordonné ce mardi la libération des 7 manifestants arrêtés le 4 février lors d'un sit-in à Niamey contre la loi des finances 2018 qu'ils jugent antisociale, a indiqué leur parti. Tous nos amis ont été relaxés et seul Alassane Intinikar a écopé d'un mois de prison avec sursis et 20 000 francs CFA équivalent de 30 euros d'amende, a précisé devant la presse Mariama Bayard, la chef du fonds de l'opposition indépendante qui avait appelé au sit-in. Afrique du Sud, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit mardi déterminé à panser les plaies du massacre de Marikana en 2012 quand la police avait tué 34 employés d'une mine appartenant à la société Lonmin dont il était un administrateur. Je voudrais saisir cette opportunité pour aborder le rôle que j'ai joué en tant que l'un des directeurs de Lonmin dans les événements de cette tragique semaine, a déclaré M. Ramaphosa devant le Parlement au Cap. Cette fusillade policière, la pire depuis la fin officielle du régime d'apartheid, avait déclenché une violente vague de grève dans les mines sud-africaines, faisant une soixantaine de morts. Cyril Ramaphosa, qui était à l'époque membre du conseil d'administration du groupe minier britannique Lonmin, avait été soupçonné d'avoir fait pression pour que la police casse la grève. Mais il a été blanchi par une commission d'enquête. Ses adversaires continuent cependant de lui reprocher ce massacre. Enfin, les secours iraniens ont localisé aujourd'hui mardi l'épave d'un avion de ligne qui s'est écrasé dimanche dernier avec 66 personnes à bord dans une zone de haute montagne, mais l'évacuation des corps s'annonce longue et périlleuse. L'avion ATR de la compagnie iranienne Aseman Airlines, qui effectuait une liaison entre Téhéran et la ville de Yashouj dans le sud-ouest du pays, s'est écrasé dimanche dans les monts Zagros pendant une tempête de neige.